Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis avec vous en ce mardi 6 février 2018, tout doux avec quelques petits flocons. C'est tout joli. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
En forme ce matin?
Mais comme à chaque jour, voyons.
Alors, on vous écoute dans votre chronique du 6 février. Est-ce qu'il y a une journée internationale de quelque chose?
Eh bien, tout d'abord, sachez qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Gaston.
La Saint-Gaston.
La Saint-Gaston, et comme la chanson le
dit si bien. Gaston, le téléphone qui sonne.
Et oui, il n'y a jamais personne qui y répond, et c'est un clin d'œil, car le 6 février, donc journée de la Saint-Gaston, est la première des trois journées mondiales, au pluriel, sans téléphone mobile.
Ah, c'est vrai.
Oui, donc le téléphone prenant de plus en plus de place dans la vie de chacun et de tous.
L'avez-vous laissé chez vous, le vôtre?
Ben, j'ai eu la malchance d'apprendre l'existence. Ben, je l'avais déjà par le passé, mais je ne me suis rappelé de l'existence de cette journée qu'une fois arrivé ici, donc j'ai malheureusement échoué. Cela dit, je n'aurai pas d'excuses pour demain et après-demain, mais je ne promets rien. Également, 6 février, sur une note un peu plus sérieuse, Journée internationale contre les mutilations génitales, aussi connue comme Journée internationale contre l'excision, qui touche encore, faut-il le rappeler, plusieurs millions de personnes par année. Outre le fait que l'excision est une violation fondamentale des droits humains, il faut rappeler aussi que souvent c'est fait dans des conditions les conditions médicales dans lesquelles c'est fait ne sont vraiment pas optimales. Donc il peut y avoir des complications en plus d'avoir des atteintes, comme on le mentionnait, pour les droits fondamentaux de ces femmes et ces filles qui sont les victimes de ces mutilations. Événement marquant, un 6 février 1819, la compagnie anglaise des Indes orientales établit un comptoir à Singapour. 1891, les Dalton font leur premier vol de train. Les Dalton, bien sûr, immortalisés entre autres dans Lucky Luke et entre autres par Joe Dassin. 1916, naissance du mouvement Dada à Zurich. 1918, encore un 6 février, en Grande-Bretagne, le droit de vote est étendu aux hommes de 21 ans et aux femmes de 30 ans. 1919, sur une même note, les femmes obtiennent le droit de vote au Luxembourg. On le rappelle qu'au Québec, il faudrait attendre 1940. 1937, publication du livre de John Steinbeck, Des souris et des hommes. 1984, la Canadienne Barbara Ann Scott gagne la médaille d'or en patinage artistique aux Jeux olympiques de Saint-Moritz. 1952, je sais qu'on fait des sauts dans le temps, mais c'est encore plus divertissant ça, on ne sait jamais où on va atterrir. 1952, en visite au Kenya, la princesse Elizabeth Alexandra Mary apprend la mort de son père, le roi George VI, et devient ainsi reine sous le nom d'Elizabeth II. 1971, on le mentionnait hier, l'arrivée de Apollo 14 dans l'espace et sur la Lune. Eh bien, 6 février 1971, Alan Shepard devient le premier homme à frapper une balle de golf sur la Lune lors d'une excursion de 2 jours sur ce satellite. 1979, fin d'une grève de 8 mois au quotidien Montreal Star, qui ne s'en remettra pas et fermera ses portes le 25 septembre suivant. 1995, encore un 6 février, première image spatiale entre la navette Discovery et la station Mir. Et il faut noter également que le lieutenant-colonel Eileen Collin était la première femme pilote de navette spatiale qui était aux commandes de cet engin. 1998, Hydro-Québec rebranche les derniers foyers privés de courant par le verglas lors de la crise du verglas dont on sait qui a fait des ravages en 1998.
Il y a 20 ans déjà.
En 2007, 6 février, devant le tollé de Marchand notamment, ici à Montréal, le maire de Montréal de l'époque, Gérald Tremblay, renonce à rebaptiser l'avenue du Parc comme étant l'avenue Robert Bourassa. Ça avait fait beaucoup, beaucoup jaser.
C'est maintenant un tronçon d'université qui s'appelle Robert Bourassa.
Pas dans le même secteur, mais oui.
Non.
Où suis-je? En 2015, maintenant, 6 février 2015, la Cour suprême du Canada invalide les articles du Code criminel qui interdisent à un médecin d'aider un de ses patients gravement malade à mourir. Donc, on parle bien sûr d'aide médicale à mourir. Anniversaire de naissance en ce 6 février du baseballeur Herman Ruth, dit Babe Ruth, le Bambino, né le 6 février 1895. Également naissance en 1939 du cinéaste Jean Baudin, décès, on l'a mentionné un petit peu plus tôt, 1952 du roi George VI et finalement 1918, décès du peintre autrichien Gustav Klimt.
Jean Baudin, réalisateur de la télésérie, comment dire, un grand, grand classique, Les filles de Caleb, et aussi du film Le Matou, entre autres choses.
Merci pour cette précision, Hélène.
Et merci à vous pour cette chronique, Jean-Sébastien. En une de la presse, sondage Ipsos, la presse, pas de sauveur en vue pour le PQ. La coalition Avenir Québec continue de caracoler en tête des intentions de vote alors que l'Assemblée nationale reprend aujourd'hui ses travaux. Une enquête Ipsos réalisée pour la presse montre que les Pélado, Ossan et Yvon ne sont pas une solution aux déboires du Parti québécois dirigé par Jean-François Lisée. Affaire, tempête hivernale sur les marchés. Effrayés par la hausse des taux d'intérêt, les marchés ont plongé hier. Notre compte-rendu et les explications de Stéphanie Grandmont. La chronique de Nathalie Petrovski, La force tranquille de Michelle Obama. Et pause santé, trop de rayons X chez le dentiste? Point d'interrogation. Sondage Ipsos, la presse, la CAQ grimpe, le PQ stagne. Les renforts évoqués pour le Parti québécois ne suffisent pas à freiner l'élan de la coalition Avenir Québec, propulsée en territoire majoritaire par la forte volonté de changement des électeurs, révèle une enquête Ipsos réalisée pour la presse. Par rapport à la précédente enquête d'Ipsos à la mi-octobre, la CAQ a gagné 6 points, passant de 28 à 34 points des intentions de vote. Les libéraux perdent 2 points à 30 % et le PQ marque le pas au troisième rang à 23 %. Québec solidaire encaisse une dégelée passant de 12 à 8 %. À l'automne, on disait que les astres s'alignaient pour la CAQ, cela s'est produit. Le parti de François Legault paraît en bonne position pour les prochains mois. Reste à voir si cette avance augmentera ou se rétrécira, observe Sébastien Dallaire, vice-président aux affaires publiques d'Ipsos. Avec un tel résultat, la CAQ est en territoire majoritaire, précise-t-il. Chez les francophones, la CAQ atteint 40 % d'appui, contre 29 % au PQ et 18 % pour le Parti libéral du Québec. Il y a deux semaines, Léger voyait la CAQ à 39 %, le PLQ à 28 % et le PQ à 20 %. Les écarts avec Ipsos étaient déjà comparables en octobre dernier. Et toujours en lien avec ce sondage Ipsos La Presse, une forte majorité de Québécois réprouve l'attitude du ministre de la Santé Gaétan Barrette. Pas moins de 61 % des électeurs le jugent intransigeant et arrogant plutôt que décisif et confiant. Ce constat n'est probablement pas étranger au verdict sans appel de la population devant le réseau de la santé. 70 % des gens jugent qu'il s'est détérioré depuis 3 ans. Selon Sébastien Dallaire, vice-président de la maison Ipsos, il faut rappeler que l'enquête a été menée au moment où les nouvelles défavorables sur les services de santé, les débordements des urgences et les conditions de travail des infirmières s'accumulaient dans les médias. Faut-il craindre la hausse du nombre d'aînés au volant? Un bambin de 5 ans lutte toujours pour sa vie à l'hôpital Sainte-Justine à la suite d'un accident qui a coûté la vie à sa mère dimanche dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Un drame qui relance le débat sur les dangers que poseraient les conducteurs âgés de plus en plus nombreux sur les routes. Brigitte Mouralian et son fils ont été écrasés par un automobiliste de 90 ans alors qu'ils marchaient dans le stationnement d'un centre commercial. Les enquêteurs du service de police de la Ville de Montréal ne savent toujours pas pourquoi le conducteur a frappé la mère et son garçon qui marchaient devant sa voiture. La coroner Julie Kim Godin se penchera de son côté sur les causes de la mort de Brigitte Mouralian, a confirmé hier le bureau du coroner. Il y avait 8430 conducteurs de 90 ans et plus sur les routes du Québec en 2016, soit 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Et 332 000 détenteurs de permis avaient plus de 75 ans, Leur nombre va continuer d'augmenter de façon exponentielle, ce qui fait de cette question un enjeu majeur de sécurité routière. À partir de 75 ans, les automobilistes doivent se soumettre à un examen médical et à un examen visuel pour conserver le droit de conduire. Si leur état de santé risque de nuire à leur capacité à prendre le volant, la SAAQ peut leur retirer leur permis ou leur imposer des conditions, par exemple l'interdiction de conduire le soir ou l'obligation de porter un appareil auditif. Les poursuites pénales fédérales engagées à la suite du déraillement de train de Lac-Mégantic ont connu leur dénouement hier alors que plusieurs personnes ont plaidé coupables. Parmi elles, le chef de train Thomas Harding a reçu une peine de prison de 6 mois avec sursis et des amendes de 1,25 million ont été imposées à différentes parties, dont 1 million à la compagnie ferroviaire Montreal and Main and Atlantic, MMA, Canada, pour avoir déversé du pétrole dans le lac Mégantic et la rivière Chaudière. Il s'agit d'une amende maximale pour des violations à la loi sur les pêches. Vu la gravité des infractions, a fait valoir devant le juge la procureure aux poursuites fédérales, José Pratt. L'onde de choc venue des États-Unis où Wall Street a plongé de façon spectaculaire lundi soir a gagné les marchés européens mardi matin après avoir déjà emporté les places asiatiques, c'est dans la mise à jour de la presse. À l'ouverture en Europe, la baisse ne laissait aucun doute. Moins 3,43% à la Bourse de Paris, moins 3,5% à Londres, moins 3,58% à Francfort, moins 3,3% à Madrid, et moins 3,6% à Amsterdam. L'Europe se retrouve face à une vague rouge après le bain de sang sur les marchés américains, et ce, moins de 2 semaines après un sommet historique atteint par Wall Street, souligne Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group. Une hausse significative du prix de l'essence est en cours mardi matin à Montréal. Un bond d'environ 0,4 $ du prix du litre d'essence ordinaire est survenu depuis la veille, le prix ayant été relevé en plusieurs endroits à 1,36 $. Cependant, en fin de nuit mardi, certains postes d'essence affichaient encore un prix de 1,22 $ pour un litre de carburant ordinaire. Le journal L'Itinéraire ouvre ses portes au grand public aujourd'hui dans le cadre de la Semaine internationale des camelots. Cet événement tient à rendre hommage à la résilience et à la dignité des 20 000 camelots du monde qui ont choisi d'exercer ce travail pour se sortir du cycle de l'itinérance et de l'isolement social. Les lecteurs sont attendus de 10h à 16h au 2103 rue Sainte-Catherine-Est au 3e étage.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Pas de drapeau, on fera des
les jours de fête, autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages, on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh.
On vient donc d'entendre Zaz et la pièce « On ira ».
À la une du Devoir de ce 6 février, une photo très troublante. Un père porte dans ses bras son enfant tué lors d'un bombardement aérien des forces du régime Al-Assad. Lundi, au moins 29 civils, dont 7 enfants, sont morts lors de raids aériens dans une enclave rebelle près de Damas, la capitale syrienne. Et le titre de la photo, « Une journée meurtrière en Syrie ». Bourse Wall Street perd pied. Les investisseurs appréhendent une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt. Michelle Obama à Montréal, plaidoyer pour l'éducation et l'égalité, l'ex-première dame des États-Unis séduit et inspire le public venu l'entendre. L'autre équipe des Jeux olympiques, deux des officiels qui arbitreront au hockey sont des Québécois. L'autre équipe des JO, celle à laquelle on pense rarement, c'est celle des arbitres. Eux aussi sont passés par un rigoureux processus de sélection et pour eux aussi, un rêve se réalise. Le Devoir a rencontré les deux arbitres québécois de hockey, Olivier Gouin chez les hommes et Gabrielle Ariano-Lortie chez les femmes, à quelques jours de leur départ pour Pyeongchang. Le CIO ferme la porte aux athlètes russes blanchis la semaine dernière et des allégations de dopage visent des fondeurs. Julie Boulet, la survivante, la chronique de Michel David. Québec, une rentrée à l'aube de la campagne électorale, alors qu'on voit Jean-François Lisée, François Legault et Philippe Couillard qui ont l'air vraiment de bonne humeur et souriants les uns envers les autres. Lac Mégantic, des amendes de 1,25 million. La glissade de Wall Street la semaine dernière a pris des proportions émotives lundi. La correction boursière, tant appelée depuis un an, a pris le relais de cette complaisance, ayant conduit les principaux indices à leur sommet historique sur fond de hausse des taux d'intérêt à des niveaux critiques. Les principaux indices américains, S&P 500 en tête, se sont repliés de 4 % la semaine dernière. Ils ont encaissé une perte similaire en une seule séance lundi. À un certain moment, en cours de séance, l'indice symbolique de Dow Jones s'affichait en recul de 10 % depuis son sommet historique du 26 janvier. Lundi, le taux baromètre à 10 ans des bons du Trésor américain a grimpé jusqu'à 2,88 %, touchant son plus haut niveau depuis 2014. Et cette pression haussière a été exacerbée par les données sur l'emploi américain publiées vendredi. Selon les chiffres du département du travail, l'économie a créé 200 000 emplois nets en janvier. Et ce qui est bon pour l'économie n'étant pas nécessairement agréable à entendre pour Wall Street, les salaires ont progressé de 2,9% sur 12 mois, affichant la poussée la plus rapide depuis la récession de 2008-2009. Pour les boursicoteurs, une telle augmentation est le signe précurseur d'une accélération de l'inflation et donc des taux d'intérêt, ouvrant la voie à une remontée potentiellement plus musclée et plus rapide que prévu des taux directeurs de la Réserve fédérale. Formule E, Plante cherche comment éviter la facture. Le déficit de la course montréalaise de voitures électriques s'élève à 13,55 millions. Aux prises avec un déficit de 13,55 millions de dollars, l'organisme Montréal C'est électrique, MCE, qui avait organisé la course de Formule E en juillet dernier dans les rues du centre-ville, a mis fin à ses activités. Qui paiera la note? La mairesse Valérie Plante affirme qu'elle tentera d'épargner aux Montréalais des dépenses supplémentaires dans cette aventure. Pour l'instant, il n'est pas question pour Montréal d'assumer quelques dépenses que ce soit, a dit la mairesse. La formation professionnelle doit être valorisée, clament Québec, patronat et syndicats. Québec a convoqué plus de 300 intervenants du milieu de l'éducation à deux journées de réflexion sur la formation professionnelle qui a longtemps été considérée comme une voie de garage pour les décrocheurs. Les jeunes qui s'y inscrivent aspirent, entre autres, à devenir préposés aux bénéficiaires, soudeurs ou encore maçons. Ce choix de parcours est légitime et doit être valorisé, ont clamé d'une seule voix le gouvernement. Les syndicats et le patronat lundi à l'ouverture du forum au Centre des congrès de Québec qui doit aboutir sur un plan d'action gouvernemental. Le dernier événement, de la sorte remonte à 1986, alors que Claude Ryan était ministre de l'Éducation dans le gouvernement libéral de Robert Bourassa. La centrale des syndicats du Québec a déploré lundi que l'âge moyen de la clientèle en formation professionnelle soit de 28 ans. On voit qu'il y a beaucoup moins de jeunes de 19 ans et moins qui s'inscrivent, a affirmé sa présidente, Louise Chabot, qui demande au gouvernement de donner un véritable coup de barre afin de rendre ce type de formation plus attirant. Sans promettre de sommes supplémentaires, le ministre Proulx a déclaré lundi qu'il fera de la valorisation de la formation professionnelle une priorité. Les pressions continuent à être exercées envers Québec pour que les parents puissent accompagner leur enfant mineur à bord de l'avion ambulance lors d'une évacuation en région éloignée. La Société canadienne de pédiatrie et l'Association des pédiatres du Québec ont joint leur voix à celle des parents et des médecins qui dénonçaient déjà la situation. Dans un communiqué, les deux organismes déplorent que cette politique touche un nombre disproportionné d'enfants et de familles autochtones du Nunavik. Il est clairement démontré que la présence de la famille assure un meilleur pronostic pour les enfants gravement malades, ajoute-t-il. À la fin janvier, le gouvernement avait indiqué que la configuration de l'avion empêchait d'apporter les changements réclamés. Les 3600 médecins résidents du Québec se sont prononcés à 97,7% pour la grève ces derniers jours. Sans convention collective signée depuis 3 ans, ils réclament un salaire comparable à celui des infirmières praticiennes spécialisées, IPS. Ils veulent qu'on travaille plus sans être rémunéré plus, dénonce le président de la Fédération des médecins résidents du Québec, Christopher Beaulieu. Si on n'a pas de retour du ministère, c'est sûr qu'on va déclencher des moyens de pression. Or, les résidents en demandent trop, selon le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Le point de départ des résidents était astronomique. On demandait 30 % d'augmentation, dit-il. Je les invite à revenir à la table de négociation. Il observe qu'il fut un temps où la rémunération n'existait même pas. Lowe's veut embaucher 7000 employés. Le géant américain Lowe's lance une vaste campagne d'embauche pour des postes dans ses quincailleries et celles de ses chaînes de magasins dont Rona et Renault Dépôt. L'entreprise a annoncé lundi qu'elle compte recruter ce printemps plus de 7000 employés à temps plein ou à temps partiel, mais aussi des employés occasionnels pour la saison très achalandée de l'été. Lowe's estime qu'elle embauchera ainsi 1800 personnes au Québec et 3300 en Ontario. Des mois d'affrontements sporadiques entre les deux principaux groupes ethniques en Éthiopie ont forcé près d'un million de personnes à quitter leur foyer, selon un rapport des Nations Unies dont l'AFP, l'agence France-Presse, a obtenu une copie lundi. Les violences opposant des membres des communautés Oromo et Somali le long des frontières des deux États du même nom, dans le sud du pays, intermittentes tout au long de l'année 2017, se sont intensifiés à partir du mois de septembre, faisant plusieurs centaines de morts, selon les autorités. Des chiffres récents de l'Organisation internationale pour l'immigration des Nations unies montrent que le nombre de déplacés est bien plus important qu'on ne le pensait. Nouvelle sportive en terminant, Vincent Lecavalier verra son numéro 4 être retiré par le Lightning de Tampa Bay samedi soir avant un match contre les Kings de Los Angeles. Merci d'avoir choisi Canal M de Vues et Voix. C'est l'émission Le quotidien des quotidiens en direct. Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous dans un petit moment, la revue de presse du Journal de Montréal.
Je t'écris cette chanson comme une lettre, une carte postale que tu liras peut-être, tentative qui, j'espère, réveillera dans ta chair le souvenir de ma voix. C'est qu'il y a déjà maintenant quelques mois que nous avons coupé les ponts, toi et moi, qu'entre nous une rivière de silence froid et austère est venue dicter sa loi. Je t'écris cette chanson pour te dire que je t'aime, que même si notre histoire est morte, l'amitié vit quand même. Je sais que la douleur fait souvent place à la peur de revoir les yeux qui brillent de celui qu'on a aimé. Je t'écris cette chanson comme une lettre, une carte postale tu liras peut-être, une photo qui, j'espère, mettra un peu de lumière sur les restes de nos joies. C'est que chaque matin depuis quelques mois, je repense à ce qu'on était, toi et moi. Ce soir je n'ai plus d'armure et te dis oui, c'est dur d'avoir perdu le combat. Je t'écris cette chanson pour te dire que je t'aime. Au risque de raviver les blessures et la haine. Il est bien trop difficile de jouer l'homme viril, de jouer au chevalier après t'avoir tant aimé. Je t'écris cette chanson comme une lettre, une carte postale que tu liras peut-être.
On vient d'entendre Pierre Lapointe tirer de son album La science du cœur la pièce Une lettre sur Canal M.
À la une du Journal de Montréal, la chasse aux tricheurs olympiques est ouverte. Après 30 ans de lutte contre le dopage sportif, Christiane Ayotte surveillera depuis son laboratoire de Laval des échantillons d'athlètes participant aux Jeux de Pyeongchang. Revenu Québec recherche 75 professionnels, une escouade spéciale contre les paradis fiscaux. Et pire journée à la bourse depuis 6 ans. Il lance une alerte à la bombe le jour prévu de son examen. Il dénonçait les musulmans dans la lettre alors qu'il pratique lui-même cette religion. Un étudiant de Concordia admet avoir lancé une fausse alerte à la bombe le jour où il avait un examen de microéconomie, mais il assure qu'il avait suffisamment étudié pour le passer. Il fallait que je révise le matin, oui, j'étais prêt à lancer Hicham Saadi à un enquêteur la nuit de son arrestation. Saadi, 48 ans, est accusé d'avoir fait craindre à des activités terroristes de méfaits et de menaces relativement à une missive envoyée aux médias le 1er mars 2017. Son procès a commencé hier au Palais de justice de Montréal. Une escouade dédiée aux paradis fiscaux. Revenu Québec met sur pied une escouade spécialisée dans la lutte aux paradis fiscaux et au commerce en ligne. L'équipe, composée de 75 experts, espère récupérer une bonne partie des 700 millions de dollars qui échappent chaque année au fisc québécois. Revenu Québec embauche experts en planification fiscale internationale et en recouvrement, juristes en fiscalité internationale, enquêteurs spécialisés dans la lutte aux paradis fiscaux. Coût estimé du plan d'action 8 à 10 millions. Retour sur chaque dollar investi 6 à 7 dollars. Il ne devrait pas y avoir de policiers acteurs selon le PQ. À chacun son métier, des acteurs pour les séries et les films, des policiers pour la sécurité publique, lance le porte-parole de l'opposition en matière de culture, Pascal Bérubé. Les policiers ne manquent pas de travail alors que nos comédiens et acteurs ont souvent besoin de ces revenus, renchérit son collègue péquiste à la sécurité publique Stéphane Bergeron. Les deux députés ont ainsi réagi à l'article de notre bureau d'enquête sur le phénomène grandissant des policiers-acteurs dont se plaignent les vrais comédiens. Le recours aux vrais policiers sur les plateaux de tournage devrait se limiter à conseiller les acteurs selon le PQ, qui voit l'occasion d'élargir le débat du double emploi. Au cabinet du ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, étendre l'interdiction du double emploi aux simples policiers ne fait pas l'objet de discussion. L'acteur Gildor Roy, connu pour son rôle du commandant Daniel Chiasson dans la télésérie District 31, a tendance à se porter à la défense des policiers dans ce débat. « J'ai posé 1000 questions à ces gars et ces filles-là. Ils sont à même de nous conseiller et on sauve du temps », explique le commandant du District 31, pour qui empêcher les vrais policiers de faire le métier de comédien serait de la discrimination. L'UDA, l'Union des artistes, tiendra une rencontre le 15 février pour aborder cet épineux dossier. « Le bordel informatique à Ottawa aussi. Le service informatique centralisé du gouvernement avait pourtant voulu limiter les incidents, critiques, système de communication des policiers défectueux pendant des heures, salles de serveurs paralysées toute une journée par un climatiseur surchauffant. Le nombre d'incidents critiques causés par les équipements du département informatique du gouvernement fédéral a bondi de 40 % en un an. La porte-parole de SPC, Service partagé Canada, Frédérica Dupuis, a expliqué que le bond dans les problèmes informatiques critiques est surtout dû à l'âge avancé de l'infrastructure informatique du gouvernement, ainsi qu'à un changement dans sa façon de classer les incidents informatiques, ce qui a augmenté l'identification de problèmes critiques. Une cellule chargée de gérer les cas de harcèlement touchant les employés des cabinets ministériels a été créée dans le plus grand secret cet automne au sein du bureau du premier ministre. Composé de deux personnes, le bureau de résolution et d'enquête en matière de harcèlement gère les requêtes qui lui sont présentées. Il y répond et, au besoin, il peut mettre en place une enquête indépendante officielle, a confirmé hier le cabinet de Justin Trudeau. Mise sur pied en octobre 2017, la cellule est dirigée par le chargé des ressources humaines du cabinet, Brett Tallman. L'autre personne ressource est Sabina Seni, la directrice adjointe des politiques au bureau du premier ministre. Bientôt un point de dépôt pour le verre à Saint-Lambert. Afin d'éviter que 86 % du verre récupéré finisse à la poubelle, la Ville de Saint-Lambert mettra en place un point de dépôt volontaire dédié au verre où les citoyens pourront déposer leurs bouteilles et leurs contenants. C'est un projet à portée éducative pour montrer que les gens sont prêts à faire ce petit pas supplémentaire pour que leur matière soit recyclée, indique le conseiller municipal Loïc Blanquert, président du comité d'environnement de Saint-Lambert. Le point de dépôt devrait être opérationnel d'ici ce printemps, prévoit-il. Saint-Lambert suivra ainsi l'exemple de Saint-Denis-de-Brompton, en Estrie, où un point de collecte du verre est en place depuis plus de 2 ans avec succès, indique Gaston Michaud d'Opération Vert Vert, le comité citoyen à l'origine de l'initiative. Une spectaculaire sortie de route est survenue dans la nuit de dimanche à hier sur l'autoroute 25 à Montréal. À leur arrivée, les policiers n'ont trouvé personne à l'intérieur de la Mercedes. Un homme a été localisé par la suite à proximité, mais il a dit qu'il n'était pas le conducteur et qu'il se trouvait à l'arrière du véhicule lors de l'accident. La SQ a ouvert une enquête. Le sort d'Accurso entre les mains du jury. Son gros chèque mettait-il le maire en conflit d'intérêts? Les délibérations du jury ont débuté au procès de Tony Accurso, accusé d'avoir offert des voyages et 300 000 $ à l'ex-maire de Mascouche en échange de contrats pour son entreprise. Le jury devra déterminer si le défunt maire de Mascouche, Richard Marcotte, s'est placé en conflit d'intérêts en acceptant des voyages sur le touch et un chèque de 300 000 $. Marcotte aurait ainsi commis un abus de confiance. Dans ce cas, le jury devra déterminer si Tony Accurso le savait et l'a aidé à le faire. S'il répond oui à ces questions, il devra déclarer Tony Accurso coupable. « Les comités du plan Nord et de la stratégie maritime abolis. Ces comités qui réunissent plusieurs ministres avaient pour mandat le développement du Nord du Québec et la mise en valeur du potentiel maritime du fleuve et de l'estuaire du Saint-Laurent. Créés au retour au pouvoir des libéraux en 2014, ils ont été remplacés par un comité sur la conciliation famille-travail-études. Les deux comités ont été créés dans le cadre du redémarrage du plan Nord et le démarrage de la stratégie maritime. Comme les deux projets roulent, ces comités sont devenus inactifs, dit Charles Robert, responsable des relations avec les médias au bureau du Premier ministre. Et mise à jour concernant le sort d'Accurso, c'est Jean-Sébastien qui vient de me l'annoncer après l'avoir lu, j'imagine. Alors, Accurso est reconnu non coupable par le jury.
La pièce « Here Comes the Sun », une composition de George Harrison, c'était bien sûr les Beatles, un extrait de leur album « Abbey Road » sur les ondes de Canal M.
Les journaux régionaux, la chronique de Denis Graton dans Le Droit intitulée « La journée mondiale pour décrocher ». Lisez-vous cette chronique avant de quitter pour le boulot? Si oui, tant mieux, parce que je dois vous demander de poser un petit geste ce matin avant de quitter pour votre journée de travail. Prenez votre téléphone intelligent et rangez-le dans un tiroir. Ne la portez pas avec vous aujourd'hui, passez-vous-en. En êtes-vous capable? Pourriez-vous vous passer 24 heures? Pourriez-vous passer 24 heures sans votre bon ami le iPhone? Si vous croyez que oui, c'est le moment de faire le test. Laissez votre téléphone mobile à la maison et donnez-lui la journée de congé. Dites-lui que c'est aujourd'hui le Noël des iPhones. Il en vibrera de joie. Pourquoi laisser cet appareil à la maison? Parce qu'on célèbre en ce 6 février la Journée mondiale sans téléphone mobile. C'est le titre qu'on a donné à cette journée lorsqu'elle a été créée en 2001, il y a 17 ans. Mais je présume qu'on peut aujourd'hui parler de la Journée mondiale sans téléphone intelligent plutôt que sans téléphone mobile. Parce que de 2001 à aujourd'hui, on est passé du téléphone à clapet aux fonctions très limitées au téléphone intelligent qui peut faire à peu près tout ce qu'on lui demande, ou presque. Cette journée a été lancée par l'écrivain français Phil Marceau. Et l'objectif de ce dernier était d'entamer un débat autour de l'utilisation du téléphone intelligent, de prendre un moment pour repenser la façon dont nous l'utilisons et le temps que nous y consacrons. Pourquoi le 6 février? Parce que, comme nous le disait Jean-Sébastien, parce que le 6 février est la Saint-Gaston en France. Mais Gaston est aussi le nom d'un personnage dans une chanson de Nino Ferrer qui ne répondait jamais au téléphone. Refrain, Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Ce français Marceau avait pensé à tout, quoi. C'était songer son affaire. Mais je reviens à la question. Seriez-vous capable de passer une journée complète sans votre téléphone intelligent? Pourriez-vous relever ce défi? Moi, si. Je le fais chaque été. Je passe une semaine, parfois deux, dans un chalet où, comme on dit, il n'y a pas de signal. Et le téléphone devient beaucoup moins intelligent lorsqu'il n'y a aucune connexion Internet. Disons qu'il devient aussi utile qu'un presse-papier. J'avoue que c'est beaucoup plus facile de décrocher de son téléphone intelligent en vacances. La Terre peut tourner sans nous lorsqu'on est en vacances. Mais aujourd'hui n'est pas une journée de vacances. En tout cas, pas pour moi. Je me demande si je pourrais passer la journée sans ce téléphone qui me suit partout depuis quelques années. Je ne pense pas. En fait, oui. Je pourrais m'en passer pendant 24 heures, mais ce serait extrêmement difficile. Non pas parce que je suis dépendant de ce jouet électronique, mais bien parce que le téléphone intelligent est devenu l'outil de communication numéro un. Et de le laisser à la maison durant une journée de travail serait une décision pas très intelligente. Le patron veut me joindre, il m'appelle sur ce téléphone, ou il me transmet un courriel, ou encore il me texte. Et c'est la même chose pour les lecteurs qui veulent me parler ou communiquer avec moi. Une journée sans téléphone intelligent, c'est aussi une journée sans réveil matin, sans carte routière ou GPS, sans dictionnaire au bout des doigts, sans thermomètre, sans comptoir bancaire, sans appareil photo, sans... Enfin, vous me suivez? Disons que la liste pourrait être longue, vraiment longue. Et c'est tout ça qu'on laisserait à la maison ce matin si on relevait le défi de la Journée mondiale sans téléphone intelligent. Ce serait comme un retour 30 ans en arrière. Avouez qu'on serait bien le temps d'une journée. Juste le temps d'une journée. Si bien serions-nous qu'on voudrait partager notre bonheur et notre bien-être avec la planète tout entière. Mais comment faire? Dans le soleil, Jean-François Cliche, vérification faite, Martin Luther King vendait-il des camions? L'affirmation, dimanche pendant le Super Bowl, le constructeur automobile Fiat Chrysler a fait passer une pub pour le camion Ram 1500 dans laquelle on entendait le révérend Martin Luther King, grand leader afro-américain des années 50 et 60, affirmer « Si tu veux être important, c'est très bien. Si tu veux être reconnu, c'est très bien. » Si tu veux exceller, c'est très bien, mais reconnais que celui qui est le plus grand d'entre nous devra être ton serviteur. C'est une nouvelle définition de l'excellence qui signifie que n'importe qui peut exceller. Pas besoin de connaître Platon et Aristote pour se rendre utile. To serve. Pas besoin de connaître la théorie de la relativité d'Einstein pour se rendre utile. Pas besoin de connaître la deuxième loi de la thermodynamique pour se rendre utile. Juste besoin d'un cœur rempli par la grâce, d'une âme générée par l'amour. Notons que le slogan des camions RAM est « Built to serve », fait pour servir. Sur son canal YouTube, le constructeur américain a expliqué que dans le même esprit que Dr. Martin Luther King, les propriétaires de camions RAM croient en une vie passée au service des autres. Les faits. Cette publicité n'a pas particulièrement bien passé, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les réseaux sociaux. D'aucuns lui ont reproché de récupérer un personnage historique et une cause noble à des fins mercantiles. D'autres ont affirmé que la citation choisie tordait le sens d'un discours de Martin Luther King, comme on l'appelle parfois. Ici, c'est MLK. MLK. Alors, qu'a-t-il au juste? La version intégrale du discours est disponible dans l'encyclopédie Martin Luther King sur le site de l'Université Stanford. Il s'agit d'un sermon intitulé « The Drum Major Instinct », l'instinct du tambour major, en référence aux percussions parfois bruyantes que l'on entend dans les fanfares. L'original de ce sermon venait d'un prêcheur méthodiste, J. Wallace Hamilton, et Martin Luther King en a prononcé une adaptation en février 1968, 2 mois avant d'être assassiné. Vers la fin du discours, au 4/5 environ, le révérend lance bel et bien les paroles que la publicité reprend. Des petits bouts de phrases ont été coupés ici et là, vraisemblablement pour des questions de temps, mais rien de grave en ce qui concerne cette partie du discours. Et la citation a reçu l'aval de King Estate, qui possède les droits d'auteur du défunt révérend. Cependant, quiconque lit le sermon, en entier, s'aperçoit rapidement que la citation manque gravement de contexte. Cet instinct du tambour major dont il est question est une recherche d'attention qui nous fait souvent vivre au-dessus de nos moyens, a dit Luther King, dénonçant le consumérisme. Des gens passent leur vie juste à essayer de surpasser Pierre-Jean-Jacques, et ils achètent un manteau en particulier parce qu'il est un peu meilleur et qu'il paraît un peu mieux que le manteau de Marie. Et je conduis cette voiture parce qu'elle a un petit quelque chose qui la rend un peu meilleure que celle de mon voisin, déplorait le révérend. Ailleurs, dans le sermon, et ça ne s'invente pas, le révérend explique que l'existence de cet instinct explique pourquoi nous tombons dans le panneau des publicités. Afin d'être un homme distingué, vous devez boire ce whisky. Afin de rendre vos voisins envieux, vous devez conduire ce type de voiture. Afin d'être adorable, vous devez porter ce parfum ou ce rouge à lèvres. Et avant que vous vous en rendiez compte, vous êtes en train d'acheter ces bricoles. C'est comme ça que les publicitaires font. Spectaculairement hors contexte, la situation elle-même est à peu près exacte. Alors là, on est dans le verdict après tous les faits publiés. Le verdict donc, spectaculairement hors contexte, la situation elle-même est à peu près exacte, n'ayant presque pas été modifiée. Mais c'est en tordre grossièrement le sens que de l'utiliser dans une pub de camion, alors que dans l'ensemble, le sermon dénonce cet instinct qui nous fait acheter des grosses voitures pour impressionner les autres. Jean-Sébastien vient de me faire rire en me disant « Martin Luther King, c'est pas lui qui avait fait le célèbre discours intitulé « I have a truck ». Ça va vite, vite, vite. Il reste 30 secondes, le temps de vous dire que vous écoutez le quotidien des quotidiens et je vous invite à rester avec nous pour les actualités culturelles. Je reviendrai sur la première de Parsifal hier au Met, mise en scène par François Girard et orchestrée. Et le chef d'orchestre qui était là, c'est bien sûr Yannick Nézet-Séguin. Paraît-il que ça a été très, très bien reçu. Il y aura aussi place au sujet libre. À tout de suite.
Marie-Hélène vient juste d'avoir 20 ans. Ça fait 6 mois qu'est en appartement. Sur les murs blancs d'un petit 3e et un demi est partie en voyage. Marie-Hélène a pourtant pas d'amant, juste des amis qui viennent de temps en temps fumer son pot, écouter sa musique. Marie-Hélène est une fille sympathique.
C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps.
En mobylette, en métro ou à pied, Marie-Hélène traverse la société. Née par hasard dans le mauvais pays, au mauvais temps, Marie-Hélène s'ennuie. S'ennuie de quoi? Elle sait pas trop bien. S'ennuie de qui? Elle sait encore moins. En attendant, il y a eu 2 mois d'ouvrage, 1 mois d'études, puis l'assurance chômage.
C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps.
Le temps d'user jusqu'au dernier sillon, son Genesis et sa 5e saison, et d'oublier les mots de Let It Be qui joue la nuit quand tout le monde est parti. Mais Let It Be, c'est déjà l'ancien temps. Marie-Hélène avait même pas 12 ans, et c'est si loin qu'elle le sait plus par cœur. Et c'est tout ça qui fait qu'elle a si peur.
C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le
faites partie de ceux qui se posaient la question « Let It Be, c'est déjà l'ancien temps, mais à partir de quand était-ce déjà l'ancien temps? » Ben, du moins, à partir de 1976, c'était déjà l'ancien temps, car c'est la date à laquelle la pièce Marie-Hélène de Sylvain Lelièvre est apparue dans nos oreilles.
Alors, les actualités culturelles, la presse à New York, musique, critique, Alain Brunet, je vous lis les 2 premiers paragraphes et le tout dernier de cette critique. Un nouveau cycle de Parsifal, opéra wagnérien, mis en scène en toute singularité par François Girard, de surcroît dirigé par Yannick Nézet-Séguin, s'est amorcé triomphalement hier au Metropolitan Opera House de Manhattan. Scénographie d'avant-garde, éclairage et projection dernier cri, mouvement de scène assorti de chorégraphies rituelles, voilà autant d'éléments ayant magnifié le chant et le jeu des protagonistes du récit. Qui plus est, le tout était soutenu par une clarté orchestrale exceptionnelle, gracieuseté de l'orchestre du Met et de son maestro québécois. Et pour terminer, Alain Brunet écrit « Pour qui n'a pas encore assisté à cette production, il faut en rappeler la finesse et la vision. » En créant un contexte visuellement contemporain, d'une beauté plastique tout simplement exceptionnelle, en actualisant les thèmes explorés par Richard Wagner, François Girard n'a-t-il pas créé un nouveau standard? Posez la question 3 petits points. La grand-mère de la musique trad s'éteint. Chanteuse, danseuse et chercheuse passionnée, Francine Brunel-Reeves est décédée samedi. Pionnière de la musique traditionnelle, ayant chanté le Québec en France, artiste polyvalente au parcours atypique et chercheuse autodidacte et passionnée, la Montréalaise Francine Brunel-Reeves est décédée samedi, elle avait 85 ans, et c'est un article de Philippe Papineau dans Le Devoir d'aujourd'hui. Au fil de sa vie passée entre le Québec, les États-Unis et la France, Francine Brunel-Reeves a mis en lumière de multiples façons les traditions orales et leur importance. C'était, pour reprendre les écrits de l'ex-collègue Yves Bernard, la grand-mère de la musique trad. Née le 29 octobre 1933 dans une famille aisée, devenue mère de 4 enfants, elle a passé une bonne partie de sa vie avec le scientifique Hubert Reeves, qu'elle a suivi dans son travail à Ithaca, dans l'État de New York, puis à Paris, au milieu des années 60, où elle vivra par ailleurs mai 68. Francine Brunel-Reeves portera entre autres la parole québécoise. Elle chantait Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Claude Léveillé, ainsi que des artistes moins connus comme Marie Savard. « J'étais une chanteuse indépendantiste et socialement très engagée », précisait-elle en entrevue au Devoir en 2009. Radio Centre-Ville fait face à une menace de saisie. Un créancier fait appel à un huissier pour se faire payer. Une menace de saisie par huissier pèse sur la station communautaire multilingue de Radio Centre-Ville, mais le directeur de la radio, Wanex Lalanne Zéphir, a bon espoir de pouvoir surmonter ce problème. Une rumeur de fermeture de la station a cependant couru dans les réseaux sociaux lundi. Tout est parti d'un communiqué envoyé par Marc Provencher, un ancien technicien de Radio Centre-Ville, dont la compagnie Groupe Consortium a eu recours aux petites créances pour se faire payer une somme de quelque 7 000 $ due par la station. Selon Martin Bourgie, directeur de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, l'existence même de la station n'est pas compromise. Les équipements de diffusion de la radio, dont l'antenne, ont de toute façon une valeur bien supérieure à 7 000 $, soutient-il. Or, Martin Provencher affirmait dans son communiqué que la fermeture de la station était à prévoir le 31 mars. Radio Centre-Ville 102,3 FM est une radio communautaire qui existe depuis plus de 35 ans dans la métropole. Paul Simons annonce une tournée d'adieu. Simon. Quelques jours seulement après qu'Elton John eut annoncé sa retraite de la scène dans 3 jours, un autre grand nom de la musique s'apprête à faire une tournée d'adieu, Paul Simon. Le musicien âgé de 76 ans s'est tourné vers les médias sociaux lundi pour annoncer que sa prochaine tournée sera sa dernière, citant les conséquences de la tournée sur sa vie personnelle et la mort récente de son ami et guitariste, Vincent Nguini. Pour expliquer sa décision, les billets pour sa tournée Homeward Bound de Farewell Tour, qui s'arrêtera au Centre Bell le 13 juin, seront mis en vente le 8 février. La tournée s'amorcera le 16 mai à Vancouver et l'amènera en Amérique du Nord et en Europe. Son dernier spectacle est prévu le 15 juillet à Londres avec James Taylor et Bonnie Raitt comme invités spéciaux. Un spectacle à Toronto est également prévu le 12 juin. Il a précisé qu'il pourrait remonter sur scène de façon occasionnelle après sa dernière tournée. Et je termine avec une critique de théâtre. Société d'accueil avec Dis Merci, la compagnie Joe, Jack et John fête ses 15 ans de fort belle manière. 15 ans déjà que Catherine bourgeois créé dans la plus grande autonomie des spectacles qui abordent de manière ludique, pour ne pas dire festive, de criants enjeux de société. Sous la bannière de sa compagnie Joe, Jack et John, la metteuse en scène a édifié un répertoire fort cohérent, une dizaine d'œuvres qui jettent des ponts entre les disciplines aussi certainement qu'entre les communautés. Sa nouvelle pièce « Dis merci » ne fait pas exception. Pour en faire le cœur de son théâtre, Bourgeois n'a pas attendu que la diversité et l'inclusion soient des concepts à la mode. Ainsi, sa plus récente création, comme les précédentes, met en scène des personnages joyeusement contrastés, un microcosme d'individus dont les différences sont matière à quelques conflits, bien entendu, mais également, ou plutôt surtout, à de fertiles échanges. Les protagonistes de « Dis merci » résident dans le même immeuble. Armés de ballons, de guirlandes et de gâteaux, le quatuor de voisins s'apprête à accueillir chaleureusement une famille de réfugiés syriens. Vivant avec une déficience intellectuelle, Marc, interprété par Marc Barakat, est d'origine égyptienne. Anglophone, Emmanuel Kate, Emma Kate Guimont, habite à Montréal depuis 12 ans. Venu du Congo, Ali Ntumba, a fui un conflit qui dure depuis une vingtaine d'années. Quant à Danny Boudreau, il se définit comme caucasien. En une suite de tableaux parlés ou dansés, cocasse ou grinçant, concret ou métaphorique, léger ou cinglant, la représentation explore efficacement sans jamais faire de sermon les dédales du vivre ensemble. L'arrivée des réfugiés syriens, Catherine Bourgeois s'en sert comme d'un prétexte, comme d'un révélateur des nombreuses contradictions de la société québécoise actuelle. On réfléchit sur le sens de mots épineux comme étranger, identité ou culture. Une série de conseils aux nouveaux arrivants engendre des scènes à la fois désopilantes et critiques. Prends ta place, fonds-toi dans le décor, rentre dans le rang, obéis. On se dispute pour tout et pour rien. Pour un joli ballon, un confortable lazy boy électrique ou une alléchante part de gâteau, on s'engage dans des jeux de pouvoir aussi vains que cruels. Toutes les occasions sont bonnes pour rappeler à l'autre qu'on est plus fort, plus grand, plus digne, plus légitime. Même quand on donne, c'est pour mieux reprendre. Avec son rythme soutenu, son savant mélange de registres, singulière conjugaison de douce folie et d'observation sociale, sans oublier la considérable vigueur des quatre interprètes, le spectacle est l'un des plus réussis de la compagnie, sans nul doute le plus riche et équilibré d'un point de vue dramaturgique. Gageons que l'apport de Pénélope Bourque, auteure, et de Sarah Fauteux, conseillère à la dramaturgie, y est pour quelque chose. « Dis merci » est présenté à Espace Libre jusqu'au 10 février.
Je comptais tes pas dans le temps, ce qui sépare l'espace de tes choix. Je n'étais pas seule, et les fleurs, tu les comptes sur le bout de tes doigts, qui défient noirceur et supplice. Mais moi, je suis attirée par le vice. On s'assemble ensemble, mes petits m'attendent. Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que je reconnais, ce n'est que vie dans moi. D'abus, je vis d'erreur, tes mots comme une loi. Comme une prémonition, on ne changera pas. On ne changera pas. Nos cris font tomber les murs d'une vie qu'on se plaît à pousser. Les limites des corps, ceux qui partagent nos ébats, nos pensées. On s'éprend de douleur, mais on est attiré par notre malheur. On détruit ensemble, mes petits m'attendre. Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que je reconnais, ce n'est que vie dans moi. D'abus, je vis d'erreur, tes mots comme une loi. Comme une prémonition, on ne changera pas. On ne changera pas. Je reviens vers toi, ce que je reconnais. Ce comme une loi, comme une prémonition. On ne changera pas.
Madame de Pirate, de son petit nom Cœur, avec la pièce Prémonition, qui est son plus récent extrait.
Segment libre, Michelle Obama à Montréal, plaidoyer pour l'éducation et l'égalité. L'ex-première dame des États-Unis séduit et inspire le public venu l'entendre. On en parle dans les journaux de ce matin. Je vous lis l'article de Lisa-Marie Gervais dans Le Devoir. Aussi populaire que son mari, dont la présidence des États-Unis a pris fin il y a un an, Michelle Obama continue de briller autant que lui, sinon plus. Lundi soir à Montréal, l'ex-première dame n'avait rien perdu de sa force d'attraction, séduisant et inspirant un auditoire à qui elle a parlé essentiellement d'éducation lors d'une causerie organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. « Merci », a-t-elle répondu en français à l'accueil que le public galvanisé, voire électrisé, lui faisait. Ils étaient quelque 10 000 spectateurs réunis, dont plusieurs femmes, notamment la mairesse Valérie Plante et Sophie Grégoire Trudeau, en plus de milliers d'étudiants, au Palais des congrès pour une rencontre en huis clos, où aucune photo ni captation vidéo n'était permise. Et même si certains avaient payé plusieurs centaines de dollars pour écouter l'ex-première dame, jusqu'à 1200 dollars pour être assis à une table avant, à l'avant de la salle, la magie a opéré dès son apparition sur scène. Pour son court entretien dirigé par Séverine Labelle, présidente de Femmes Essar, Michelle Obama avait prétendument carte blanche. Elle s'est pourtant limitée au combat qu'elle menait alors qu'elle était première dame. Malgré quelques questions plus légères, voire encadrées, je vous en reparlerai tantôt, ses propos, pleins d'intelligence et d'humour, n'en sont pas moins demeurés convenus. L'éducation en a été le maître mot. Peut-être bien femme aussi. Et fille. Les chiffres montrent que si les filles sont compétentes, elles ne sentent pas qu'elles le sont, a dit l'ex-première dame, insistant sur le fait qu'il faille les soutenir. Même qu'à certaines occasions, elle ne s'est pas gênée pour prendre les hommes à partie et leur rappeler que c'est à tous ceux qui sont en situation de pouvoir de faire changer les choses et de céder leur place aux femmes. Si vous êtes assis à une table et que vous ne voyez que des personnes du même genre, de la même race, vous devez vous poser des questions, a-t-elle dit, sous les applaudissements. Quant aux femmes, elles doivent cesser de se dénigrer intérieurement et rassembler leur énergie pour repousser les barrières, a insisté Michelle Obama, avec cette authenticité, cette aisance à s'exprimer et à séduire qu'on lui connaît. Ces trois conseils aux leaders et à ceux et celles qui aspirent à changer les choses, l'éducation, la passion et le compromis. Vie à la Maison-Blanche. Michelle Obama est également revenue sur ses années à la Maison-Blanche. Si elle a pu occuper la fonction de première dame, la plus difficile techniquement, qu'elle a assumée dans sa vie, a-t-elle dit, c'est grâce à son éducation. L'éducation est la fondation de tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Elle a exhorté les jeunes à écouter leurs parents, au moins sur ce point. Prenez l'école au sérieux, a-t-elle dit sous les rires. Elle a admis avoir elle-même manqué de confiance en elle lorsqu'elle a dû voler de ses propres ailes. J'avais des doutes et des peurs, mais je me suis rendu compte que c'était dans ma tête. Elle a aussi admis qu'on a tenté de la décourager d'entreprendre des études dans les plus grandes universités comme Princeton et Harvard, qu'elle a fréquentées parce qu'elle était noire. Mais elle a dit être rapidement passée par-dessus, car la confiance profonde qu'elle avait en elle s'était bâtie dès l'enfance, un message qu'elle a tenu à transmettre à toutes les personnes présentes. J'étais fière de mon histoire, je n'ai jamais cherché à la cacher. Je me suis aimée. Je n'ai jamais été une autre que Michelle Obama, a-t-elle déclaré sous les applaudissements. Et maintenant, des plans pour l'avenir, Michelle Obama en a plusieurs. mais pas de politique, a-t-elle dit, a-t-elle lancé, rappelant que sa réelle passion est le changement social. Parmi ses autres projets, en plus de s'occuper de la fondation qu'elle a créée avec son mari, elle termine ses mémoires et prépare l'entrée de sa cadette Sacha au collège. « Une fois que mes deux filles seront à cette étape, sky is the limit », a-t-elle affirmé. La présidence n'est pas pour elle, mais si elle avait une amie qui voulait se présenter, elle lui dirait « fais-le », tout en la mettant en garde qu'on ne fait pas de la politique pour soi ou pour faire mousser sa carrière. « La politique ne change pas qui tu es, elle révèle qui tu es », avait-elle d'ailleurs lancé d'entrée de jeu. « La politique, c'est un service public, un sacrifice ». La visite dans la métropole de Michelle Obama survient après celle très rapprochée de son mari Barack Obama, venu lui aussi à l'invitation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de Joe Biden et d'Hillary et de Bill Clinton à la fin de l'année 2017. De passage à Toronto récemment, Michelle Obama se rendra à Vancouver le 15 février prochain et en Alberta au mois de mars. 5 questions en rafale. La marche ou le vélo? Les deux, a-t-elle répondu avant d'opter pour une longue randonnée. Une chose dont elle ne peut se passer, les frites. Le cerveau de qui aimerait-elle avoir? Personne. Je sais bien ce qui se passe dans le mien, alors je ne prendrai pas le risque d'essayer celui de quelqu'un d'autre. Si vous pouviez voyager dans le temps, à quelle époque iriez-vous? Ici et maintenant. Je suis noire, alors je n'aimerais pas vraiment retourner en arrière, a-t-elle déclaré sous l'hilarité générale, avant d'ajouter espiègle, regardez qui sont qui veulent retourner. Regardez qui sont ceux qui veulent retourner en arrière à l'heure actuelle. La dernière chanson qui lui a trotté dans la tête? Celle du film La Mélodie du Bonheur, au moment où elle a survolé la frontière canadienne. Parce que si on avait à quitter notre pays pour aller ailleurs, on viendrait ici. Mario Girard, l'humour de Lisée. Pensez donc, l'occasion était belle pour Jean-François Lisée de marquer des points. Son parti piétine dans les sondages et dans les idées, et il avait la chance d'être invité à l'une des émissions radiophoniques préférées de la jeune génération. Il a débarqué là avec l'envie de montrer son côté cool. Il est reparti en laissant l'image d'un homme capable des pires blagues de mon oncle. Invité pour la 184e fois à l'émission radiophonique « La soirée est encore jeune », le chef du Parti québécois a voulu expliquer l'idée innovatrice qu'il a eue en nommant Véronique Yvon vice-chef de son parti. Lisée a donc fait une comparaison entre le concept du PQ et celui de Québec solidaire, représenté par les deux co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. C'est alors qu'il a dit « En plus, contrairement à Manon, elle, Véronique Yvon, n'a pas de moustache ». Le public, habitué à huer de manière complice les quatre gars de « La soirée est encore jeune », notamment lors des jeux de mots de Jean-Sébastien Girard, a cette fois spontanément et franchement manifesté son mécontentement face à la mauvaise blague de Lisée. Un malaise a alors plané. Que voulait dire Jean-François Lisée au juste? Que sa vice-chef est plus féminine que Manon Massé parce qu'elle se rase la moustache, les aisselles, les jambes comme toute femme devrait le faire? L'auteur de cette torpille balourde s'est empressé de rédiger sur Facebook un mot d'excuse dans lequel il rappelle habilement que Manon Massé elle-même fait des blagues sur sa moustache. La principale intéressée n'a pas voulu commenter l'affaire car elle est au chevet de sa mère malade. Gabriel Nadeau-Dubois a toutefois qualifié la blague de mauvaise. D'abord, il serait grand temps qu'on en revienne de la moustache de Manon Massé. Les commentaires à son sujet font petit peuple. Laissons cela à André Arthur. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, il n'est plus là pour être le porte-étendard de l'ânerie. Deuxièmement, en homme intelligent qu'il est, Jean-François Lisée sait très bien que ce type de blague sur l'apparence physique de quelqu'un ne se fait pas, surtout quand on aspire à être premier ministre. Peut-être que Manon Massé assume sa moustache, mais en entendant ce commentaire maladroit, j'avais en tête tous ces jeunes ridiculisés dans les cours d'école à cause de leur apparence physique. Ces jeunes n'attendent qu'une chose des adultes, qu'ils les protègent, pas qu'ils leur rappellent leurs intimidateurs. Cet écart de la part du chef du PQ nous ramène à la fameuse performance qui vise les invités qui vont dans les émissions de divertissement. La soirée est encore jeune est diffusée en direct d'un bar devant un public enflammé et elle se fait en compagnie de quatre gars qui ont la dégaine facile. Il arrive fréquemment que l'on sente la pression qui repose sur les épaules des invités. Ils veulent être à la hauteur, ils gesticulent et se débattent comme des damnés pour en ressortir gagnants. Bref, ils en font parfois trop et ils perdent au change. Je me souviens des premières saisons de Tout le monde en parle où des invités vendaient carrément leur âme au diable. Il y a eu des moments malaisants où des gens, à force de vouloir être à la hauteur, avaient l'air complètement ridicules. Comme a déjà dit un jour Henri Salvador, l'humour, c'est comme le swing, ça ne se travaille pas. On l'a ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Depuis que les politiciens ont pris l'habitude d'aller dans les émissions de divertissement, on a eu droit aux extrêmes. Cela peut rapporter beaucoup, mais cela peut être néfaste. Je suis le premier à apprécier le fait que les politiciens sortent de leur zone de confort pour montrer leur côté humain, mais ils doivent savoir que ces entrevues sont une arme à deux tranchants. Et il semblerait que l'arrivée en renfort des réseaux sociaux conforte les conseillers et attachés de presse dans leur idée que ces apparitions publiques sont toujours une bonne chose. Ce procédé est devenu courant et trop facile à mon goût. Malheureusement pour Jean-François Lisée, les excuses qu'il a offertes à Manon Massé ne m'ont pas convaincu. Son commentaire m'est resté en travers de la gorge. À l'instar de plusieurs milliers de Québécois, Jean-François Lisée est en train de vivre le fameux « moi sans alcool ». Dimanche soir à la soirée est encore jeune, il buvait une boisson non alcoolisée, fort heureusement. Imaginez ce qu'il aurait pu dire. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Je vous invite à rester avec nous puisque les paractualités s'en viennent si vous nous écoutez en direct. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical.